Bonjour, bienvenue dans le podcast Sortir du Burnout. Donc, c'est le podcast de Human Tempo. Nous accueillons les personnes en situation de fatigue, d'épuisement, voire de burnout pour des césures de bien-être en Bourgogne. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à aller voir notre site www.humantempo.com. Je suis Rachel, l'une des cofondatrices, et j'ai le grand plaisir d'animer ce podcast. Alors, dans l'épisode du jour, nous recevons Béatrice. Béatrice, tu es venue en avril 2022 suivre une césure recharge anti-burnout. Et ce qui va être particulièrement, j'ai hâte de t'entendre à ce sujet, ça va être particulièrement intéressant, c'est que entre-temps, après ta césure, tu as découvert quelque chose sur toi, et en fait, notamment le fait que tu étais touchée, alors je ne sais pas si je vais employer le bon vocabulaire, mais en tout cas que tu étais autiste au potentiel. Tu vas nous expliquer tout ça, et surtout tu vas nous expliquer à quel point il y a des relations, en fait, entre ce trouble du spectre autistique et le burn-out, l'épuisement. Bienvenue, Béatrice. Est-ce que, pour commencer, tu veux bien nous dire quelques mots sur toi ?
Bonjour, Rachel. Ça me fait très plaisir d'être là et de nouveau être en contact avec Human Tempo 2 ans plus tard. Donc, moi, je m'appelle Béatrice. J'ai 33 ans. Je suis d'origine espagnole, même si j'ai vécu longtemps en France. J'ai fait un burn-out suite à une situation de harcèlement au travail, ou en tout cas ce que j'ai perçu comme de l'harcèlement au travail. Mais depuis, comme tu disais, j'ai découvert que je suis aussi sur le spectre de l'autisme, ou je suis autiste. Et j'aimerais en parler un petit peu plus aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes, notamment qui ne sont pas au courant, et qui peut facilement mener à des situations de burn-out. Donc je me suis dit, vous qui voyez beaucoup de gens passer, notamment beaucoup de femmes en situation de burn-out, il est très probable qu'il y en ait certaines qui soient autistes et qui ne le sachent pas. Donc voilà, je voulais un peu partager cette expérience au cas où ça soit utile pour d'autres gens.
Génial, mais je suis sûre que ça va être très très utile pour les gens qui viennent chez nous et aussi pour les gens qui écoutent ce podcast et qui vont peut-être se reconnaître dans une partie de ton histoire. Alors pour commencer, Béatrice, est-ce que tu veux bien nous parler, alors revenir peut-être quelques années en arrière et nous parler de ta vie quand tout, j'ouvre des gros guillemets, allait très bien, mais que tu as senti qu'il y avait du stress et de la fatigue qui commençaient à monter de manière anormale. À quoi ressemblait ta vie, ton travail, ton engagement? Vas-y.
Alors moi, j'ai commencé ma carrière dans la fonction publique et des organisations internationales. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte que ça n'allait pas. J'ai fait illusion à moi-même et aux autres autour de moi que tout allait très bien. Puis j'ai voulu changer de secteur pour travailler plus sur le changement climatique. Depuis 3 ans, je travaille dans une fondation qui vise à soutenir la transition vers une société verte, on va dire, parce que c'est un sujet qui me tenait très à cœur. Et c'est au sein de cette fondation qu'il y a 2 ans, j'ai fait un burn-out. Ce qui est un peu particulier, je trouve, avec mon burn-out, c'est que ça ne correspondait pas exactement aux témoignages que j'avais lus, que j'avais entendus, par exemple, chez Human Tempo, parce que je n'avais pas l'impression de beaucoup travailler. En termes horaires objectifs, on va dire, je ne travaillais pas énormément. J'ai toujours été très stricte sur mes horaires, sur ne pas travailler le week-end, ne pas travailler le soir, prendre des pauses, etc. Donc, moi, je n'ai pas du tout vu venir mon burn-out parce que moi, à l'époque, je pensais que le burn-out, c'était réservé aux gens qui travaillaient trop, qui se poussaient, qui prenaient pas de pauses, qui travaillaient dans la finance, pour caricaturer, ce qui n'était pas du tout mon cas. Donc, je ne pensais même pas que c'était une possibilité. J'ai commencé... En fait, j'avais une chef qui était problématique. Pour donner un exemple, j'avais beaucoup de travail, donc j'étais stressée et j'essayais de tout faire dans ma journée dans les horaires, parce que comme j'étais très stricte là-dessus, j'essayais de tout faire. À un moment, j'avais trop de travail et je lui dis, bon, soit je peux déléguer à telle autre personne, parce que là, c'est trop pour moi, soit on peut peut-être reporter cette réunion un peu plus tard, comme ça, je peux mieux la préparer. Soit peut-être que tu peux m'aider à faire certaines choses, mais en tout cas, là, c'est trop. Il faut m'aider à faire autrement. Et elle avait refusé. Elle avait tout simplement dit non. Et j'ai dû tout faire. Donc, la réunion, j'ai pas pu déléguer. Elle ne m'a pas aidée. Donc, bon, ça, c'était juste un exemple d'une situation qui arrivait assez souvent. Donc, j'avais beaucoup de pression de sa part, une grande charge de travail. Et donc, j'essayais de faire dans les horaires que j'avais parce que interdit de travailler au-delà. Ce qui faisait que j'étais dans une situation très stressante avec une grande charge de travail, mais aussi un peu une charge émotionnelle, pour ainsi dire, parce que ma relation avec ma chef n'était pas bonne et je ne me sentais pas soutenue. Et elle était souvent dans sa communication un peu passive-agressive, voire agressive avec moi. Bon, maintenant, j'ai aussi la grille de lecture de l'autisme qui me permet de comprendre pourquoi ça me mettait en difficulté à ce point. Parce que je me dis bien que peut-être qu'une autre personne dans la même situation, elle n'aurait pas eu la même réaction, son burn-out aurait peut-être été moins fort, etc. Mais en tout cas, moi maintenant, je comprends pourquoi c'était le cas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des symptômes liés au burn-out, sans que je le sache. Donc j'avais des problèmes de concentration, j'étais extrêmement fatiguée. J'ai arrêté de faire des choses en dehors du travail parce que j'étais trop fatiguée, ce qui m'a un peu entraînée dans une boucle de je travaille et je traîne sur mon canapé, qui n'était pas très productive ni qui ne m'aidait pas à sortir de cet état-là parce que je ne faisais pas des choses qui me faisaient plaisir. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de sortir du burn-out, donc, et que j'ai découvert Human Tempo, parce que j'ai trouvé qu'il y avait peu de ressources, finalement, pour vraiment sortir du burn-out. Tout le monde me disait, il faut se reposer, il faut tout arrêter, il faut se mettre en arrêt, etc. Mais moi, je me suis mise en arrêt maladie, et en fait, ça allait de pire en pire. Ça ne m'a pas du tout aidée, parce que on n'arrive pas à se reposer comme ça en disant « bon, maintenant je me repose ».
C'est ça.
Donc voilà, j'étais très contente d'avoir trouvé Human Tempo parce que ça m'a énormément aidée à la fois à vraiment me reposer en faisant ce séjour, mais aussi à mieux comprendre les mécanismes derrière le burn-out. Donc le stress, ce n'est pas lié aux horaires au travail, c'est plus lié à ce qui se passe dans le corps. Et à comprendre que pour en sortir, il ne suffisait pas de rester chez soi sur son canapé toute la journée, mais qu'il fallait aussi faire des choses qui nous font du bien.
C'est ça.
Donc voilà, j'ai énormément appris à ce moment-là.
Bon, chouette. En tout cas, nous, on avait été ravis de t'accompagner, puis tu étais dans un super groupe, je me souviens aussi. J'appuie ce que tu dis, hein, effectivement, il y a un peu de confusion dans le monde. Beaucoup de gens pensent que le burn-out, c'est lié au fait d'avoir beaucoup de travail, alors que le burn-out est lié au fait d'avoir beaucoup de stress. Et en effet, tu peux être très stressé sans forcément avoir énormément de travail. Et inversement, tu peux avoir beaucoup de travail sans ressentir de stress parce qu'il y a du soutien autour de toi, parce que tu le vis bien, parce que c'est que des choses que tu aimes. Donc, c'est pas forcément corrélé, en effet. Et donc, suite à Human Tempo, alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Béatrice? Parce que je me souviens qu'effectivement, tu étais assez remontée, pleine d'espoir sur la possibilité pour toi de retourner dans un travail de manière classique. Et c'est là où ça a été un peu plus compliqué, c'est ça?
Alors oui, j'ai encore pris un temps d'arrêt après mon séjour à Human Tempo, je pense 2 mois. Et après, j'ai repris à temps partiel pour être un peu progressive dans mon retour au travail. Et j'ai changé d'équipe aussi. Il s'avère que ma chef est partie de toute façon, mais je voulais un peu commencer sur des nouvelles bases. Donc, j'ai changé d'équipe. Et en fait, j'ai remarqué que même en travaillant à temps partiel, mon stress augmentait beaucoup. Et je n'ai pas voulu augmenter mon temps de travail. Ça, c'est aussi quelque chose, bon, en termes de mettre ses limites et mieux s'écouter. Je pense que Human Tempo m'a aussi aidé là-dessus. Donc, j'ai remarqué que j'étais déjà assez stressée, même en travaillant à mi-temps. J'étais à 50% à l'époque. Je suis aujourd'hui à 60%. Donc, je n'ai jamais augmenté au-delà de 3 jours par semaine, qui est ce que je fais actuellement, parce que je sentais que mon niveau de stress était de nouveau assez élevé. Et en fait, pour moi, cette question du stress a été fondamentale pendant très longtemps. Un peu la question cruciale pour moi a été pourquoi je suis aussi stressée tout le temps.
Exactement.
Que je travaille à temps partiel, que je change de pays parce que j'ai déménagé depuis, j'ai une vie beaucoup plus tranquille qu'avant. D'accord. Et pourtant, je me sentais toujours très stressée. Donc, c'était un peu, voilà, je ne m'en sortais pas avec cette question. J'ai essayé beaucoup de choses pour diminuer le stress, pour diminuer les sources de stress, etc. mais j'étais toujours dans cette situation proche du burn-out.
Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment ça se traduisait pour toi, le fait d'être stressé, sachant que effectivement tu travaillais à 50%, donc tu avais des symptômes physiques, tu avais des réactions. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais que c'était OK d'être stressé ou au contraire, tu comprenais pas? Qu'est-ce qui se passait?
Oui, alors physiquement, j'avais les symptômes de stress que je reconnaissais d'avant, donc anxiété sociale, peut-être des symptômes dans le corps comme avoir chaud, comme quoi d'autre, avoir des troubles de sommeil, tous les symptômes un peu classiques du stress, je les avais. Mais ce qui a changé un peu dans ma perception, c'est le fait que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas que le travail qui me stressait, parce que bon, j'avais réduit de moitié quand même mon temps de travail. Certes, j'étais stressée au travail, mais j'étais également stressée le jour où je ne travaillais pas.
Ah ouais.
Avec des interactions sociales ou avec juste essayer de faire, je sais pas, des tâches administratives, des tâches domestiques. J'avais l'impression que tout était trop pour moi. Et c'est une sensation que j'avais eue depuis longtemps, parce que je ne me souviens pas d'une période de ma vie où je n'ai pas été stressée, en tout cas de ma vie adulte. Oui, donc en fait pour moi, voilà, j'ai vraiment changé de perception en me disant, bon, pendant longtemps j'ai cru que c'était le travail, j'ai cru que c'était la vie à Paris qui était trop intense, etc. Mais en fait, j'ai fait plein de changements dans ma vie, y compris passer à mi-temps, et le stress était toujours là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à plus explorer la voie de la neurodivergence. En fait, j'ai la chance que ma femme s'y connaissait un petit peu là-dessus, parce que moi, il y a même un an, je ne savais pas du tout ce que c'était d'être autiste. Enfin, j'avais un peu une idée comme ça, comme on l'a souvent, mais assez éloignée de la réalité. Voilà, c'est ma femme qui m'a parlé du sujet et qui m'a beaucoup soutenu dans mon processus d'apprentissage puis d'acceptation, parce que au début j'ai beaucoup résisté à cette idée, notamment parce que je suis quelqu'un de assez sociable, j'aime beaucoup voir mes amis, j'aime beaucoup faire la fête, donc je me disais c'est impossible que je sois autiste. Et d'ailleurs les gens autour de moi, j'en ai parlé à quelques amis, personne pouvait croire que ça pouvait me concerner, quoi. J'étais vraiment loin du stéréotype. Donc, ça a pris du temps, vraiment.
Alors, attends, juste, Béatrice, je voudrais revenir sur vraiment ce moment clé où, donc en l'occurrence, ta femme qui s'y connaissait, t'a dit, écoute, j'ai l'impression que tu devrais creuser cette piste. Enfin, c'est-à-dire, quels sont les signes qui l'ont alerté? Parce que ça, c'est super important, tu vois, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui sont peut-être déjà venus chez nous et qui sentent que, voilà, l'énergie, elle ne revient pas forcément. Est-ce que tu as des bons conseils à donner sur, excuse-moi, ce qui devrait alerter, ce qui peut générer une prise de conscience?
Oui, alors ça varie beaucoup selon la personne. Je pense qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un exemple qui vaille pour tout le monde. Dans mon cas, c'était les comportements que ma femme avait un peu repérés. Juste pour donner quelques exemples comme ça, c'était par exemple une grande rigidité mentale de voilà, il y a une façon de faire les choses, on le fait comme ça, ou alors être très attaché à des routines. Ouais. Donc
tu,
des
tu
choses.
Tu peux donner des exemples de rigidité mentale? C'est-à-dire, est-ce que c'est, tu veux, je sais pas, plier tes vêtements d'une certaine manière, ou est-ce que c'est l'organisation des vacances? Je sais pas, tu peux nous donner quelques.
Oui, bien sûr. C'est des bons exemples. Donc par exemple, chez nous, j'étais très rigide, ou je le suis encore, sur le rangement et la propreté. Donc, on avait vraiment des divergences là-dessus, parce que pour moi, tout objet a une place, et si l'objet n'est pas à sa place, alors c'est un problème. Donc, voilà, pour moi, en fait, ça, quand je vois un objet qui n'est pas à sa place, ça crée, bon, je ne sais pas si du stress, mais ça crée un petit malaise à l'intérieur. Je me dis, ah, cet objet n'est pas là où il devrait être. Ce qui, bon, pour la vie commune, peut créer aussi des soucis, vous l'imaginez. Aussi, sur les vacances, puisque tu as donné cet exemple, moi, j'aime beaucoup planifier avec beaucoup de temps d'avance. Par exemple, ma famille, elle n'est pas du tout comme ça. Donc, quand on essayait de se voir avec mes parents, moi, j'avais besoin des mois à l'avance déjà de leur dire, voilà, je viens de telle à telle date, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce moment-là, est-ce qu'on peut déjà réserver des choses, parce que ça m'apaise. Bon, ça, c'est lié un peu à une autre caractéristique de l'autisme qui est qu'on n'aime pas l'incertitude et on a besoin de que les choses soient très claires depuis le début. Donc voilà, sur par l'organisation exemple, des vacances aussi.
Par exemple, si au dernier moment, ta famille te dit « Ah, ben, ce qu'on avait prévu, est-ce qu'on peut inverser les jours et puis plutôt faire ceci ? Et puis, il y a un tel qui va se joindre à nous, donc il faut juste rajouter une place, etc. » Toi, c'est compliqué ce genre de choses, par exemple ?
Oui, très. D'ailleurs, c'est une situation qui, malheureusement pour moi, arrive beaucoup dans ma famille. Et effectivement, ça, je ne saurais pas comment le décrire, mais en tout cas, ça me stresse. Parce que moi, je m'étais faite à une idée et après, ça change. Et j'ai vraiment des difficultés à accepter le changement et le fait que moi, je m'étais faite à une idée de comment ça allait être. Et finalement, c'est autre chose. Et ça me coûte, cette ouais. différence-là.
D'accord, super. Bah, merci d'avoir donné ces exemples parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se dire « Ah bah oui, peut-être que je devrais rechercher de ce côté-là parce que j'ai une rigidité » ou même des proches en fait. Ça peut nous aider à comprendre pourquoi des proches vont surréagir sur quelque chose où nous on dit « Bah c'est bon, c'est une personne de plus, c'est rien, elle le prend pas comme ça » et en fait c'est peut-être juste la manière dont ton cerveau est câblé qui est ainsi. Bon.
Oui, et je dirais, enfin pour l'anecdote, moi il y avait autre chose qui m'a fait un peu switcher dans ma tête, qui était le fait que j'ai une condition qui s'appelle prosopagnose, je crois, en français. Bon, excusez-moi, c'est peut-être pas le bon terme. Ça veut dire, c'est une grande difficulté à reconnaître les visages des gens que même on a déjà vu une ou deux fois. Bon. Heureusement, ça ne m'arrive pas avec les personnes très proches. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis longtemps. C'est une difficulté que j'ai qui ne se manifeste pas trop chez les autres. Et j'ai lu un jour que c'était fortement corrélé à l'autisme. Et je pense que voilà, le fait de commencer à avoir un faisceau d'indices qui disait bon, telle condition qui est quand même assez rare, qui arrive souvent chez les autistes. Voilà, j'ai de la rigidité mentale, j'ai de l'anxiété sociale. Au fond de moi, je sais que j'ai... Il y a souvent le narratif chez les personnes autistes qu'on a toujours été un peu bizarre, entre guillemets. Donc, qu'on a toujours su qu'il y avait peut-être un petit décalage entre nous et les autres. Ça revient très souvent. Donc, voilà, c'était beaucoup de choses qui ont commencé à indiquer vers là. Et bon, après une fois que je commençais à lire là-dessus, à me renseigner sérieusement, c'était beaucoup plus simple de voir l'évidence.
Ouais. Je reviens sur l'anxiété sociale parce que tu as dit quelque chose et je peux témoigner quand tu étais quand tu es venue à la maison Human Tempo, tu es quelqu'un de sociable en fait. Enfin, tu rigoles, tu parles, tu n'as aucun problème pour te mêler dans le groupe. Et donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus ce que tu veux dire par anxiété sociale ? C'est-à-dire, tu peux, mais ça te stresse, ou tu peux, sur le coup, ça ne te stresse pas et c'est après que ça te fatigue ? Enfin, comment ça se passe en fait ?
Oui, alors moi, j'ai une grande capacité à ce qu'on appelle camoufler chez les personnes autistes, qui est que, voilà, en apparence de l'extérieur, on ne voit pas que la personne a beaucoup d'anxiété sociale ou qui est peut-être en train de passer un mauvais moment parce que on arrive à imiter un comportement, entre guillemets, normal. D'accord. Et moi, j'ai, malheureusement pour moi d'ailleurs, j'ai une grande capacité à faire ça. Et tout mon travail actuel, c'est d'essayer de défaire cette capacité de camouflage pour comprendre comment je serais si j'étais plus authentique à moi-même et moins dans l'attente de ce que les autres attendent de moi. Mais pour être concrète là-dessus, en fait, dès que je suis dans une interaction sociale, mon corps est en état de stress. Donc, les symptômes que j'ai cités tout à l'heure se manifestent vraiment. Donc, j'ai le cœur qui bat plus vite, peut-être je transpire. Et je pense que c'est lié au fait qu'en fait, il y a une voix dans ma tête qui contrôle tout ce que je dis ou je fais pour être sûr que c'est dans la norme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on développe, que les personnes autistes développent depuis qu'elles sont toutes petites, parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je ne pourrais pas dire demain, OK, j'arrête de faire ça. C'est quelque chose de vraiment profond en moi qui fait que, sur le coup, j'arrive très bien à faire genre. Et par ailleurs, j'aime bien les gens et j'aime bien... Il y a des personnes autistes qui n'aiment pas ça. Moi, ce n'est pas mon cas. J'aime bien être avec des gens. J'aime bien rigoler, être en groupe, etc. Mais ça me coûte beaucoup en termes de stress et d'énergie. Et je ne m'en rendais pas compte, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été en burn-out et malheureusement, je le suis un peu de nouveau. C'est que j'ai eu beau réduire la quantité de travail, comme j'avais toujours une vie sociale très active par ailleurs et que j'étais tout le temps en train de camoufler, la fatigue m'a rattrapée et le stress était là même au-delà du travail en fait.
Ouais, super intéressant. Et j'insiste juste sur quelque chose que tu m'as dit en amont de ce podcast. C'est le fait, parce que quand tu dis camoufler, on peut penser que tu te dis, ah, il faut que je, que tu te dis consciemment, oulala, il faut que je regarde les gens dans les yeux ou il faut que je souris à ce moment-là. Mais tu m'as dit que, en fait, toi, tu n'avais même pas conscience de cette suradaptation, en fait, que tu étais en train de te forcer à avoir une interaction qui n'était pas spontanée pour toi. Donc, c'est là où c'est paradoxal. Enfin, c'est, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand tu as dit ça. Vas-y.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc depuis que j'ai mon diagnostic et depuis que j'ai accepté tout ça, je me rends compte qu'en fait, si, c'est assez conscient. Parce que, par exemple, maintenant, quand je suis avec des gens, je remarque que je les regarde dans les yeux alors que je préférais ne pas le faire. Je remarque que je fais très attention à comment je suis assise. Est-ce que je croise les jambes? Est-ce que ma main est ici? Ma main est là-bas? Donc, maintenant, je vois cette voix dans ma tête. Mais il y a un an, je ne trouvais pas du tout que c'était le cas chez moi parce que je pense au fond, je pensais que tout le monde faisait ça. En fait, on n'a pas vraiment de façon de savoir clairement que notre cerveau fonctionne d'une façon différente aux autres. On pense juste que tout le monde est comme nous. Donc moi, je me disais, ah ben, c'est normal de, je sais pas, préparer ce qu'on va dire à un ami. On va prendre un café. Moi, une heure avant, j'étais en train de repasser dans ma tête les phrases que j'allais dire à cet ami pour... même pour lui raconter ma journée, enfin rien de, pas forcément un sujet sensible. Mais je le faisais souvent et j'avais l'impression que tout le monde faisait ça, parce que comment je pourrais savoir que les autres, ils n'avaient pas fait ça. Donc à l'époque, il y avait une partie de, je pensais que c'était normal, et il y avait une partie de, c'était pas conscient que j'étais en train de faire attention à ce point, à ce que je faisais ou disais. Et depuis, bah maintenant, plus le temps passe et plus j'observe comment ça se manifeste chez moi. Et donc voilà, là, c'est là-dessus que j'essaie de travailler pour mieux remarquer ce genre de choses. Mais c'est un travail rien que d'être conscient de ça.
Mais ouais, génial. Alors, donc, on comprend bien en t'écoutant le lien entre ton type d'autisme et l'épuisement. Parce qu'en fait, là où pour quelqu'un comme moi, je ne sais pas si on peut dire neurotypique, mais enfin bon, voilà, oui, j'ai pas les symptômes que tu décris. Ben, avoir une conversation avec un ami, c'est quelque chose de détendant qui ne me demande pas d'effort, alors que pour toi, ça te demande un effort, même une heure avant, et j'imagine pendant la conversation aussi. Donc toi, tu vas sortir de cette conversation peut-être contente, mais bien fatiguée, là où moi, j'ai juste passé un bon moment et j'ai pas du tout utilisé mon énergie. C'est un peu ça, c'est ça?
Exactement. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que c'est un point essentiel aussi dans la sortie du burn-out ou l'évitement d'un autre burn-out. C'est le fait que les solutions vont être très différentes, en fait. Parce que moi, avant de savoir ça, j'aurais toujours conseillé à un ami qui n'allait pas très bien, bah, va voir des gens, sors, si ça te donne de l'énergie parce que t'es extraverti. Pourquoi pas faire ça, alors que maintenant, je sais que oui, j'aime bien ça, mais en parallèle, ça prend beaucoup d'énergie, donc il faut que je le fasse de façon un peu modérée, on va dire. Et je pense que, voilà, pour prévenir le burn-out chez des personnes autistes, c'est un peu des techniques différentes à la plupart des gens, et pour moi, le point essentiel, c'est, je pense que ce qui mène à des situations de burn-out chez les personnes autistes, c'est une différence entre les attentes que la société a de ce qu'il faut faire et ce que la personne peut effectivement donner. Parce que la société peut nous dire il faut voir la famille, il faut avoir un boulot à temps plein, il faut voir ses amis le soir, il faut aller au cinéma de temps en temps, pour prendre un exemple. Mais en fait, peut-être que c'est déjà trop pour une personne autiste. Et du coup, si tu vois que ton voisin ou ton partenaire ou ton cousin y arrive très bien, mais toi, tu n'y arrives pas, bah, en fait, tu vas pousser plus fort parce qu'il n'y a pas de raison. Tu te dis, pourquoi eux, ils y arrivent et pas moi? Bah, je vais pousser plus fort. Mmh. Et c'est là qu'il y a un peu une boucle de fatigue. On pousse plus de fatigue, épuisement, burn-out, etc. Surtout quand on ajoute à ça le camouflage, qui fait qu'effectivement, une activité comme voir un ami peut en fait être fatigante. Et les difficultés sensorielles que beaucoup de personnes autistes ont. Moi, je pense que c'est un peu moins mon cas, mais il y a beaucoup de personnes pour qui la lumière, par exemple, est extrêmement fatigante. Donc, la lumière dans un bureau ou le son, Moi, marcher dans la rue, ça me stresse rien que par le son, le bruit des voitures, des gens qui parlent, etc. C'est déjà une expérience stressante en fait. Donc, si on veut sortir du burn-out, je pense qu'il faut comprendre tout ça, parce que tout ça, ce sont des sources de fatigue à leur façon qui s'empilent en fait. Et pour sortir du burn-out, je pense, bon, une personne autiste, elle ne pourra pas sortir du burn-out tant qu'elle n'a pas adressé ces sujets-là.
Ouais, super intéressant. Donc ouais, parmi les faisceaux d'éléments qui peuvent indiquer que ça vaut la peine d'aller se faire diagnostiquer, il y a l'hypersensibilité, c'est ça, à tout ce qui est bruit, lumière, en plus de ce que tu as dit précédemment, donc les interactions sociales et le côté un peu rigide, la difficulté à changer au dernier moment, ce genre de choses. Vas-y, ouais.
Oui, et j'ajouterais un point à cette liste, un peu de choses classiques chez les personnes autistes, il y a les intérêts spécifiques. Donc, alors, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que je sais que c'est un des critères essentiels pour un diagnostic d'autisme. Donc, les intérêts spécifiques, c'est le fait que souvent, les personnes autistes ont un ou plusieurs sujets par lesquels ils sont passionnés. Ils peuvent passer la journée entière à soit lire là-dessus, soit faire l'activité en question. Et encore une fois, chez les femmes, c'est plus difficile à détecter parce que c'est souvent des sujets ou des activités qui sont, entre guillemets, plus normales. Donc là où, par exemple, un garçon va typiquement dans le stéréotype et obsédé par les trains et vraiment tout connaître là-dessus, ça, je pense que c'est un exemple que la plupart des gens peuvent reconnaître. Chez une fille, ça va peut-être être les animaux ou les chevaux. Donc, elle va passer la journée à dessiner des chevaux. Et c'est plus difficile de l'extérieur de se rendre compte qu'en fait, c'est un intérêt spécifique. C'est juste que c'est un intérêt spécifique, entre guillemets, plus acceptable que peut-être celui d'un garçon. Donc moi, c'était pas pour moi un indice très clair. J'ai mis longtemps à comprendre quels étaient mes intérêts spécifiques à moi. Parce que, voilà, c'est des choses un peu plus subtiles. Pour moi, c'est la musique et le sport. Donc, je pense presque tout le monde aime la musique et le sport d'une façon ou d'une autre, donc c'est plus difficile à voir. Mais voilà, donc sur les intérêts spécifiques, moi c'était quelque chose qui m'a un peu freinée quand j'essayais d'accepter mon autisme parce que je disais j'en ai pas vraiment, donc je ne peux pas être autiste. En fait, ça peut être un peu plus subtil.
Ouais. Tu disais aussi avant qu'on enregistre, quand on s'était eu au téléphone, que les femmes sont beaucoup plus, on va dire, talentueuses pour masquer leur trouble. Enfin, je sais pas si on peut dire trouble. Enfin, en tout cas, leur condition d'autiste, parce qu'elles se suradaptent mieux. C'est ça?
Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes sont sous-diagnostiquées. Une, effectivement, c'est lié à ce que tu dis, c'est le fait que, à mon avis, les femmes ont plus de pression sociale que les hommes, et ça commence déjà dès un très jeune âge. Un garçon qui joue avec ses jouets dans un petit coin, il aura peut-être moins de pression qu'une fille qui est censée dire bonjour à tata et être vraiment présente, et si elle ne le fait pas, elle va être peut-être plus punie qu'un garçon pour les mêmes choses. Donc je pense que les femmes, elles développent à force plus de capacités socio-communicatives, à mon avis, pour des raisons un peu sociales et de pression familiale, que les garçons. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on dit souvent que les femmes camouflent plus, on va dire, ce qui est d'ailleurs très mauvais pour elles. Hein. C'est pas du tout, malheureusement, c'est pas une qualité, c'est plus quelque chose qui va amener à des problèmes de santé. Mais pour moi, il y a aussi le fait que quand on a commencé à faire des recherches sur l'autisme, donc c'était, je pense, dans les années 30, les premières fois qu'on a repéré l'autisme, c'était chez des garçons. Et ça a orienté les recherches vers ça, en fait. Jusqu'à assez récemment, on ne savait même pas que les femmes pouvaient être touchées par l'autisme. Oui, je pense, enfin, peut-être dans les dernières 40 années, bon, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, au début, on pensait que c'était... D'ailleurs, on appelait ça le cerveau masculin. Donc, on pensait que c'était un cerveau qui était trop masculin, donc ça ne pouvait arriver qu'aux garçons et plus tard aux hommes. Et ça a orienté les recherches en fait, parce que bah, de fait on ne regardait que les garçons autistes, donc jamais les filles, et les outils même du diagnostic ou de recherche qui ont été faites suite à ça se sont focalisés sur les garçons. Donc forcément, si on a une technique d'évaluation qui est faite par des hommes pour des hommes, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas être qui vont passer sous le radar.
Bien sûr.
Exactement. Et maintenant on commence tout juste à se dire OK, il faut peut-être changer les outils de diagnostic, changer les critères pour que plus de femmes puissent être diagnostiquées. Parce que avant, on pensait qu'il y avait à peu près une femme autiste pour 9 hommes autistes. C'est un peu le ratio qu'on pensait. Et au fur et à mesure de la recherche, on se rend compte que après on a dit bon, c'était plutôt un homme, une femme pour 4 hommes. Ouais. Maintenant, on dit plutôt une femme pour 2 hommes. L'inverse. Un homme pour 2 femmes. Non.
Attends. Ouais.
Donc maintenant, on dit que c'est plutôt 2 hommes pour une femme. Donc il y a 2 fois plus de hommes autistes que de femmes autistes. Mais à mon avis, plus on fait des recherches là-dessus et mieux on comprend l'autisme chez les femmes, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas à peu près égal.
C'est vrai.
En tout cas, beaucoup plus proche de l'égalité que jadis quand on disait que c'était 9 fois plus probable chez les hommes.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on diagnostique beaucoup moins les femmes.
Ouais. Alors, pour bien comprendre, là, l'autisme, le type d'autisme dont tu parles, c'est tous les troubles du spectre autistique ou c'est l'autisme au potentiel dont tu fais partie, qu'on appelait avant autiste Asperger, c'est ça? Alors, petite parenthèse, tu m'as appris qu'on ne disait plus Asperger, c'est bien ça?
Oui, alors, l'autisme et la recherche dessus évolue beaucoup et a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, il y a des gens encore maintenant qui se disent Asperger et mon diagnostic dans un autre temps aurait été Asperger, effectivement. En fait, avant, on distinguait plusieurs types d'autisme entre selon s'il y avait ou pas des difficultés intellectuelles. Donc, en cas d'absence de difficultés intellectuelles, c'était plutôt Asperger et les personnes autistes, c'était des personnes avec des difficultés d'apprentissage ou des difficultés intellectuelles. Bon, il s'avère que Asperger, c'était un monsieur qui a plus ou moins découvert l'autisme, en tout cas a mis un nom dessus. Et c'est une figure très controversée maintenant parce qu'il a participé au régime nazi, notamment en faisant de la recherche sur des enfants autistes et en, entre guillemets, sauvant ceux qui avaient des hautes capacités intellectuelles et en donnant le reste au régime et à des camps de concentration. Donc, c'est un sujet grave. Bien Donc, sûr. En fait, au début, on ne savait pas ça. On pensait juste qu'il avait fait des recherches dessus et que, du coup, il y avait 2 types d'autisme, ceux qui étaient, entre guillemets, très intelligents et ceux qui avaient peut-être des difficultés. Plus on a appris sur sa vie et les choses que le monsieur Asperger avait faites, maintenant, on fait plus ces distinctions-là, du coup, parce qu'il y a un côté très validiste, en fait, dans le fait de dire les hauts potentiels qui sont très intelligents, on va les sauver, et le reste, c'est des gens qui ont un peu des problèmes, donc on va les séparer. Donc, il y a eu un effort assez conscient, je pense, de maintenant utiliser un terme pour tout le monde, parce qu'au final, c'est le même trouble qui se manifeste un peu différemment, mais ça reste la même condition chez tout le monde. Mais effectivement, pendant longtemps, il y a eu cette séparation et je pense que pour les personnes qui sont qui sont diagnostiquées tard comme moi, c'est souvent des personnes qui avant auraient été considérées Asperger parce que c'est des personnes qui ont un niveau d'intelligence et d'adaptabilité sociale pour faire comme si rien n'était que d'autres personnes autistes n'ont pas et peut-être que ces autres personnes autistes auraient été diagnostiquées dans l'enfance, par exemple.
D'accord, ok. Super, je te remercie d'avoir éclairci ça parce que c'est vrai que on a tendance à un peu tout mélanger et avoir, comme tu l'as dit, hein, une image de la personne autiste comme forcément avec des défaillances visibles, voire incapable de parler ou d'avoir une vie normale et encore moins d'avoir un job à haut niveau comme toi. Donc, merci pour ça. Oui, dis-moi.
Si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est aussi quelque chose qui... Ces différences entre deux types d'autisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour les personnes, entre guillemets, à haut potentiel, parce que justement, leur handicap est plus invisible. Donc, là où une personne autiste qui a des difficultés intellectuelles dès un très jeune âge va être prise en charge et, j'espère, aura du soutien pour faire sa vie, les autistes type haut potentiel, pour les appeler comme ça, c'est beaucoup moins visible et ils n'auront pas ce soutien-là. Et ils vont tout prendre à l'intérieur, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'après, ils sont stressés en situation de burn-out. C'est parce que déjà, on ne sait pas qu'ils sont autistes et ils essayent de surcompenser tout le temps pour être dans cette position de normalité, alors que peut-être qu'eux aussi ont des besoins et des besoins de soutien à certains égards. Donc, c'est toujours Voilà, c'est une autre limite, je pense, de cette distinction, c'est que on pourrait croire que les personnes autistes à haut potentiel en souffrent moins, puisqu'ils, entre guillemets, ils peuvent avoir une vie normale. Bon, j'ai un travail, j'ai une femme, je suis en contact avec ma famille. De l'extérieur, on pourrait croire que tout se passe très bien.
Je confirme.
Ça se passe bien, mais voilà, il y a cette difficulté à l'intérieur. Donc.
Ouais, en effet. C'est une différence invisible, dans ton cas en tout cas. Yes. Est-ce que tu veux bien revenir sur le parcours? Donc, ta femme te dit, écoute, Béatrice, tu devrais regarder du côté de l'autisme. Et là, tu vas voir qui? Un psy, un psychiatre, un médecin? Comment ça se passe?
Alors, malheureusement, je n'étais pas très ouverte à l'idée. Donc, j'aurais bien aimé dire que ma femme a dit ça et du coup, je suis allée voir un spécialiste. Non. Il a d'abord fallu un long processus de auto-apprentissage qui, de ce que je comprends, est assez fréquent chez les personnes autistes parce que, justement, souvent, on a un syndrome de l'imposteur où on se dit « ça ne peut pas être nous pour telle et telle raison, les gens ne me perçoivent pas comme ça ». Donc, je pense qu'avant de contacter un spécialiste ou d'aller voir un psy, un médecin, il faut déjà faire un travail sur soi pour, en fait, se rendre compte que si, ça peut nous concerner. Et ensuite, apprendre, dans mon cas en tout cas, apprendre ce que ça veut dire exactement. Et une fois que moi, j'étais à 95% convaincue que j'étais autiste, c'est là que j'ai contacté un spécialiste parce que, bon, déjà, c'est difficile de trouver quelqu'un pour faire un diagnostic. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'offres.
D'accord.
Et il y a un peu un sentiment de culpabilité de... Il y a des personnes autistes qui en ont sûrement beaucoup plus besoin que moi, entre guillemets, parce que elles sont plus en difficulté. Bon, il s'avère que j'étais très en difficulté aussi, mais je pense que j'avais du mal à le voir. Donc voilà, ça m'a pris du temps aussi de me dire, en fait, je suis légitime, même s'il y a des ressources limitées. Moi aussi, j'ai le droit d'aller voir un spécialiste. Et après, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je pense que voilà, tout le travail, en fait, je l'avais déjà fait en lisant, en parlant avec ma femme, en testant des choses.
Ouais, super. Donc, un spécialiste, c'est quoi? C'est un psychologue, un psychiatre, une médecin?
Oui, alors souvent, c'est des psychologues. Dans mon expérience, le psychiatre et certains psychologues, ils sont opposés. Bon, ma psy de l'époque, je pense, ne pensait pas que l'autisme existait ou alors peut-être dans des cas extrêmes, mais elle n'était pas d'accord que ça pouvait me concerner. Donc, je dirais aussi un petit mot de précaution, de être sûr si on cherche quelqu'un, être sûr que la personne est à peu près soit spécialiste là-dedans, soit s'y connaît un tout petit peu, a eu des expériences dedans, parce que je pense que dans la psychiatrie en général, l'autisme peut être un peu controversé. En tout cas, voilà, je pense que c'est en train de changer, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de psys, de psychiatres et de médecins qui, surtout chez les femmes, se disent « Ah ben, elle m'a regardé dans les yeux, donc c'est pas possible, donc elle a... »
Ah, waouh, d'accord.
Par exemple.
Bon, donc, très bien. Donc, tu vas voir un ou une experte qui pose un diagnostic plus précis. Et alors après, qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de te percevoir et notamment dans ton rapport au travail et à l'épuisement?
Ben, au début, j'étais un peu naïve et je pensais que l'étape ultime de tout ce processus, c'était le diagnostic et qu'après, une fois qu'on était diagnostiqué, on était tranquille et voilà, la vie pouvait continuer. Malheureusement, lors de mon diagnostic, on ne m'a pas donné un livre avec voilà, ce qu'il faut faire maintenant, comment sortir de la situation de difficulté dans laquelle je me trouvais. Donc maintenant, je le vois plus comme une première étape, en fait, plutôt que la culmination d'un processus. Parce que souvent, ces spécialistes qui font des diagnostics, ils ne font pas de suivi derrière. En fait, leur métier ou ce pourquoi je les ai payés, c'était pour me faire l'évaluation, le diagnostic, le rapport. Mais après, c'est chacun en fait comme il ou elle veut. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que, bon, en lisant et en faisant des recherches, etc., je me suis rendu compte que je faisais trop de choses, notamment des activités sociales, de voir mes amis, de sortir faire la fête. Donc j'avais un peu ces pressions sociales de aussi d'être dans le people pleasing, donc dans le essayer de se mettre dans la tête des autres et dire qu'est-ce qui s'attend de moi. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu telle personne, il faut absolument que je la voie, même si je suis fatiguée, tant pis, je vais la voir. Donc j'ai commencé à un peu réduire mon activité sociale là-dessus, sur ces critères un peu de en fait, c'est trop pour moi, je suis fatiguée, voilà, il faut que je réduise. Malheureusement, mon histoire pour le moment, ce n'est pas une histoire de succès absolu parce que je suis de nouveau en situation de... Bon, c'est pas que le burn-out il y a 2 ans, mais je dirais de presque burn-out. En tout cas, voilà, j'approche de nouveau cet état et j'ai dû prendre ces dernières semaines un temps d'arrêt maladie pour y faire face. Même si maintenant, je sais que le travail n'est pas l'unique source de stress dans ma vie, mais ça y contribue quand même. Donc voilà, je ne dirais pas qu'au stade où je suis maintenant, 4 mois après mon diagnostic, j'ai toutes les solutions et j'ai fait les changements dans ma vie qui font que j'ai un bon niveau d'énergie et tout ça est sous contrôle. Je pense que je suis encore en plein apprentissage et que les petits changements que j'ai faits au début en me disant bah, peut-être que ça va suffire juste de voir moi voir mes amis par exemple, en fait ça ne va pas suffire et je vais devoir faire des changements un petit peu plus structurel et un peu plus profond, qui, du coup, sont plus difficiles, qui vont prendre plus de temps et qui sont aussi plus difficiles à accepter parce que, voilà, c'est des choses aussi que je n'ai pas forcément envie de faire, comme par exemple, je ne sais pas, moins voyager ou moins partir en week-end avec mes amis ou des choses comme ça. Il y a une partie de moi qui aimerait beaucoup continuer à faire ces choses, mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. Donc, c'est aussi un peu un travail de deuil ou d'acceptation que voilà, ce que je faisais avant, ben, je ne vais plus pouvoir le faire, en tout cas pas maintenant, dans cette phase un peu aiguë de burn-out de nouveau. Peut-être qu'un jour, je pourrai y retourner. Donc voilà, je dirais que je suis encore en plein dedans, mais dans ce que j'ai vu dans des témoignages d'autres femmes autistes, c'est très fréquent de camoufler, avoir une vie entre guillemets normale jusqu'à la trentaine.
D'accord.
De faire un grand burn-out à un moment dans la trentaine où voilà, le corps dit stop, on ne peut plus continuer. Ensuite, est diagnostiqué après ce burn-out. Et ensuite, commencer à faire un tel changement qui vont faire en sorte que dans les années à venir, ça va aller mieux. Mais je pense que c'est un processus lent et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de voir cette expérience reflétée chez beaucoup d'autres femmes qui, à l'âge près, ont vécu des expériences similaires et qui finissent par s'en sortir. Donc voilà, moi, je me dis, je suis un peu dans le dur, mais ces femmes sont aussi passées par là et ont fini par trouver un équilibre.
Bon, bah, c'est porteur d'espoir, alors. Oui. Bon, génial. Bah, écoute, c'est super intéressant. Je te remercie, Béatrice. À titre de conclusion, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui nous écoute et qui se reconnaît un peu peut-être dans ce que tu as décrit, comme, alors bien sûr, hein, j'imagine que le conseil c'est quand même d'aller consulter et voir s'il y a un diagnostic possible, mais déjà juste pour prendre soin d'elle ou de lui et ralentir un peu, ce serait quoi la première chose que tu pourrais conseiller à cette personne par exemple?
Je pense que mon conseil principal, ça serait surtout pour des femmes, même si vous croyez être, entre guillemets, normal, réfléchissez-y, parce que si vous êtes en situation de burn-out, il se peut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la neurodivergence dans votre cas. Et c'est, pour moi, en tout cas, c'est hyper important d'être au courant pour pouvoir faire les changements nécessaires. Parce que la preuve, moi, j'ai fait un burn-out il y a 2 ans, j'ai cru que j'avais trouvé les solutions et je me retrouve en situation de burn-out 2 ans plus tard parce que je n'avais pas adressé le problème exactement en prenant les bonnes choses. Donc, d'une part, c'est voilà, en tout cas, de le considérer. Et ensuite, je pense que s'il y a un doute ou une envie d'explorer plus, moi, je n'irai pas forcément voir un spécialiste tout de suite parce que je trouve que, comme je disais, il y avait beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient même pas conscientes pour moi. Donc, ce n'est pas que j'aurais menti au spécialiste, c'est que je n'étais même pas au courant que je les faisais. Donc, peut-être de lire un peu plus, de se renseigner sur Internet. Il y a beaucoup de ressources. Malheureusement, en français, j'ai eu plus de mal à en trouver. Je pense que peut-être en France, on est encore un petit peu en retard là-dessus. Mais je peux recommander un entretien sur France Inter d'une autrice qui s'appelle Adeline Lacroix, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'autisme au féminin ». Alors, je dirais que je n'ai pas lu le livre, mais j'ai trouvé que l'entretien était très bien. Moi, le livre qui m'a le plus aidée est en anglais. Il s'appelle « Unmasking Autism » de Devon Price. Et voilà, je pense que c'est bien, même sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, il y a énormément de comptes là-dessus. Donc voilà, c'est bien de commencer par lire des petites choses et voir ensuite si ça se confirme.
Eh bien, écoute, j'adore ce conseil. Merci Béatrice, c'était génial de pouvoir t'entendre sur ce sujet et de voir à quel point tu as cheminé avec beaucoup de courage, je tiens à le souligner, parce que c'est pas simple hein, d'accepter qu'on est différent. Et comme tu l'as dit, ça implique aussi des décisions qui sont un peu lourdes. Et en même temps, bah, tu fais tout ça parce que j'entends vraiment ton envie d'être toi et de vivre ta vie à toi, quoi. Donc ça, c'est hyper précieux et ça me fait très plaisir de voir que tu avances sur ce chemin. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast avec Béatrice. N'hésitez pas à retrouver les autres épisodes sur Spotify, Apple Podcast et bien sûr sur le site de Human Tempo. Et si vous avez envie de tester une césure Human Tempo, que vous vous sentiez concerné par l'autisme ou non, hein, bienvenue. Toutes les dates, les détails sur notre site www.humantempo.com. Au revoir.
Au revoir, merci.